A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast à soir. Bonjour mon cher Rust.
Bonjour Guillaume. Faut qu'on se tutoie en fait.
Oui, faut qu'on se tutoie. Enfin, c'est-à-dire, on se connaît depuis pas très longtemps quand même. Puis on n'a pas gardé les cochons ensemble.
Voilà.
Alors, on va parler de notre cher Khamzat Chimaev qui a ébloui l'UFC Fight Thailand One. Alors, on l'avait teasé avec notre cher Rust, on s'était teasé en off. On a aussi un auditeur du podcast La Sueur. Ça fait, il nous en parle, mon cher Rost. On reçoit des messages. Ça doit faire peut-être 6 mois. 7 ou 9 mois.
Donc quelqu'un qui l'a vu venir il était au Brésil.
C'est magnifique. Et qui a encore envoyé un message juste après sa victoire, partagé le tweet du FC Russia en mode. Je vous l'avais dit, les gars.
Bah, bien joué.
J'ai
franchement.
J'ai dit bravo, monsieur.
C'est stylé d'avoir des petits insiders comme ça.
Exactement. Exactement. Bah, on va peut-être faire un petit shout-out.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire.
Petit shout-out à l'insider. Hop là. Dane. Voilà.
Dane.
Ou Dan. D-A-N-E.
Ah, Dane. Bah, si on dit Bane, faudrait dire Dane.
Ouais, Dane. Et bah, voilà, c'est Dane. Et qui nous en parle depuis. Ah non! Tant pour moi, je me suis un peu enflammé. Depuis le 21 avril.
Oh, ça va quand même. Ouais, donc en tout cas, il le savait avant de
mais quand même, il le savait. On voulait en parler parce que ce monsieur a le full package, cher Rost.
Ouais.
Pourquoi a-t-il le full package? Déjà, il fait peur.
Ouais, mais en fait, non, mais vraiment, il a le full package dans le sens. Donc, les compétences martiales, on va y venir parce que vraiment, il est impressionnant. Que ce soit debout et que ce soit surtout en lutte et au sol, il est impressionnant. Très franchement, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est calibre. On accélère, mais vraiment la machine vers le championnat très très vite parce que là, sinon il va éclater tout le monde en fait. Mmh. Et en plus c'est ça, il a du caractère. C'est ça qui m'a le plus impressionné parce que bon bah tu m'en avais parlé en début de semaine, tu m'as dit fais gaffe à ce mec là, apparemment il est vraiment chaud etc.
Fais pas trop de photos en scred parce que.
et en gros il est arrivé et il était face à un mec qui s'appelle John Phillips qui est un Galois qui est un striker et qui fait pas gaulerie non plus. Il est vraiment stylé.
Non, c'est un vétéran.
Vétéran, je crois qu'il avait plus d'une quinzaine de KO au premier round et tout, donc vraiment un mec dur quoi. Ils sont arrivés et en gros.
Et c'était pas sa catégorie naturelle aussi.
Khamzat?
Ouais, faut quand même le dire.
Je sais pas, parce qu'il a fait autant de combats en middleweight qu'en welterweight.
Oui, mais ils se sont beaucoup mieux en welterweight.
Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai, bon, bah, c'est, voilà. Ils se sont mieux en welterweight, donc c'est probablement en welterweight qu'il aura son run. Mais il peut mettre KO des mecs en middleweight, il peut se soumettre, il y a aucun problème. Et du coup, ben, ils sont arrivés tous les deux, John Phillips et Khamzat. Et dans la cage, il y avait vraiment une intensité, il y avait vraiment une tension. Et John Phillips, clairement, il venait vraiment pour faire mal. Il venait pour en découdre, il se lâchait pas des yeux. Et ça, c'est un des trucs qui est vraiment cool quand t'es proche de la cage, c'est que t'as pas les coupures pub, t'as pas les caméras qui sont sur buffer, etc. Si tu veux regarder comment est-ce que sont les mecs en face de l'un de l'autre pendant tout le moment où il y a entre le moment où ils arrivent dans la cage et le moment où ils commencent le combat, et c'est très intéressant. C'est vraiment, il y a plusieurs moments où j'ai ressenti des trucs que je ressens pas face à la télé, en fait, parce que t'as pas ça. Et déjà, c'est pas aussi réel. Et il y a pas mal de moments où il y avait les deux combattants, et ça l'a fait avec des combattantes aussi qui se regardent, et en fait, c'est là que tu comprends que c'est réel, en fait. C'est pas un jeu, il y a de l'intimidation, en fait. Et quand les personnes sont l'une devant l'autre, qu'elles se regardent, et qu'il y a déjà une guerre psychologique qui s'engage, c'est vraiment assez impressionnant. En vrai, c'est assez impressionnant. Et donc, ça l'a fait avec Khamzat et John Phillips. Et Phillips arrivait confiant. C'était pas fin. C'était vraiment, il était réellement confiant qu'il allait le démonter. Et Khamzat, on le dit, c'est difficile à quantifier. Le X factor, c'est ce qu'on dit toujours. C'est ce truc en plus, en fait. Et nom de Dieu, il l'a. Khamzat, nom de Dieu, il l'a.
Ouais, ben
il est arrivé. Je sais pas comment dire. Il a du feu dans les yeux, ce mec. Il a une confiance en lui. C'est.
Non, et puis tout était. Enfin, il n'y avait pas du tout cette impression que le gars débutait à l'UFC.
Non, c'est comme s'il s'amusait en fait. Mmh. Il est là, mais de toute façon, pour lui, c'est presque un jeu. Pour lui, il est là, il s'amuse, il est comme à la maison, et il sait ce qui va se passer, en fait.
Après, c'est à dire le match-up, enfin, favorable. Pour moi, c'était un test, mais voilà, c'était un match-up favorable. Le seul truc qu'il y avait, c'était un mec expérimenté, un mec qui était dangereux debout, et un gars qui était pas dans sa catégorie naturelle. Quand je dis catégorie naturelle, c'est, on l'a vu même en middleweight, il est pas, c'est pas un middleweight imposant. Il peut être chez les middleweight, mais c'est pas un middleweight imposant, et c'est pour ça qu'il préfère les welterweight, parce que, bah, quand vous faites de la lutte et que vous êtes un welter et que vous êtes quand même assez massif, c'est tout de suite mieux que quand vous êtes, par exemple, s'il se retrouve face à Romero.
C'est vrai. Après, ça peut être compliqué et ça va être très intéressant en welterweight parce qu'en welterweight, il sera grand. Il fait 1,88, c'est la taille de Carlos Condit, c'est la taille de... Enfin, c'est assez grand pour un welterweight. Et un lutteur grand et assez fin, c'est quand même très très rare. Et pourtant, ça l'empêche pas d'être ultra efficace. Pour l'instant, alors, il l'a fait au Brave, il l'a fait, je sais plus quels étaient les plus petites organes dans lesquels il était avant, mais malgré ce gabarit très longiligne et grand pour sa caté, il a aucun problème à étaler les mecs en lutte. Et vraiment à les dominer, mais alors sans... Il n'y a pas de partage avec Khamzat Chimaev.
Mais parce aussi, il y a une super technique. Parce que pas du tout en puissance.
Non.
C'est si vous aimez, vous êtes fan de Khabib Nurmagomedov, vous allez l'adorer parce que, bah, par exemple, sa première mise au sol, elle est super parce que c'est middle. Ensuite, directement, on bascule sur le takedown et on se concentre sur les jambes pour empêcher l'adversaire de toute façon de pouvoir avoir quelque appui que ce soit pour pouvoir se relever ou éventuellement s'en sortir.
Et en fait, c'est vraiment exactement comme Khabib dans le sens, en fait, il y a plusieurs écoles dans le maintien au sol. T'as, par exemple, je regardais il y a pas longtemps le combat entre Michael Bisping et Jorge Rivera, et en gros, ce que fait Bisping, c'est il met Rivera au sol et après, il l'emmène au milieu de la cage pour pouvoir travailler à sa manière. C'est-à-dire, il préfère ne pas que la personne ait la possibilité de faire du wall walk, c'est-à-dire de remonter grâce à la cage. Il y a plusieurs écoles, ça dépend de ta technique. Il y a la technique Khabib qui est, une fois que je t'ai mis au sol, je vais t'amener justement vers la cage parce que oui, ça peut aider à se relever, mais quand c'est maîtrisé techniquement comme les Khabib et comme donc les Khamzat Chimaev, en fait, donc tu ne te relèves pas. Et en plus de ça, avec cette technique qu'il a de constamment mettre sa tête, son buste et ses bras sur l'avant de ton corps, sur ton cou, etc., et tout son poids pour que donc tu puisses pas te relever. C'est-à-dire qu'il met pas forcément le poids ici sur la taille, il le met vraiment en haut ou en tout cas ici pour que tu sois constamment en position. En plus, comme tu l'as dit, il te réduit les appuis, il te les savate. T'es jamais en position de pouvoir te relever, en fait. Tu peux pas te relever.
Il travaille constamment aussi parce qu'il y a la recherche aussi de la soumission à chaque fois, qui est pas forcément pour soumettre. C'est juste pour, vous êtes en train de paniquer, quoi.
Il te mindfuck. Et c'est ça, en fait, qui est très impressionnant avec, moi, qui m'a impressionné avec Chimaev, c'est cette agressivité constante, en fait. C'est Khabib aussi, il a constamment cette volonté de progresser, d'aller chercher une nouvelle position, de te mindfucker, j'essaie une soumission, tu défends, ok, je passe à autre chose, t'entends peu plus. Il a un peu ça aussi, Chimaev, avec l'agressivité, encore un curseur au-dessus. Quand il est au sol, Chimaev, il fait mal, donc le ground and pound, quand il a une opportunité, il y va pour te tuer, enfin vraiment, et il a les mains lourdes en plus. Ça se voit debout, il a mis des KO monstrueux au Brave et dans les autres organisations.
Que des finishes en carrière,
et ça, ils font peur. Les finishes de Chimaev, ils font peur. Il a des combats où juste avec un jab, il choque les mecs. Juste avec un cross comme ça au niveau de la tempe, les mecs, donc en middleweight, ils font la danse de la carpe et c'est bientôt fini pour eux. Et en ground and pound, c'est pareil, t'as pas envie d'être sous le ground and pound de Chimaev. Et John Phillips, il était en sang au bout de 3 minutes. Ouais. Il est impressionnant. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné, c'était la lutte, parce qu'effectivement, contre John Phillips, on l'a vu en live, vraiment, c'était autoritaire. Gros middle de porc, il l'emmène au sol et il n'avait aucune chance de résister à la mise au sol. Et c'est impressionnant parce que pourtant, la mise au sol, la première, il me semble, Chimaev, il n'était pas deep dans les jambes. Et pourtant, il a réussi en changeant d'angle et en réussissant à tourner John Phillips.
Il profite du super timing.
Alors, la deuxième
est complètement différente pour le coup.
Mais en fait, c'est ça. Il a une technique qui est tellement, tellement complète que de toute façon, dans toutes les situations, il sera un coup d'avance par rapport à toi. Et il est physiquement, il a l'air très costaud. Et c'est c'est comme Khabib aussi, il a cette volonté de te maintenir au sol et de t'y amener. Donc c'est pas seulement que parce que il faut scorer pour les points. Il a cette volonté de non, tu ne bouges plus. Mais vraiment, c'est autoritaire. C'est très, très, très impressionnant. Et c'est vrai que sur les autres combats aussi, c'était assez stylé parce que Quand on dit il a du caractère, donc c'est dans les yeux, c'est dans le comportement, le langage corporel. Et il y a vraiment des trucs, ça, c'est un peu comme le coup de Conor McGregor, il avait 16 piges, il a mis KO un mec, et après il a été voir la caméra, il a fait « I'm the fucking future », et ça rentre dans la légende. Il y a des trucs que fait Ramzat Chimaev, c'est pareil, ça rentre un peu dans la légende. Là, on mettait tout à l'heure des combats plutôt dans sa carrière, et il y a un moment... C'est vraiment stylé. Il est derrière un mec. Il est en position. Il commence à mettre les bras pour avoir la rear naked choke. Il commence à mettre un bras et tout. Et le mec devant commence à lui mettre une droite comme ça. Et Chimaev la prend et en fait le protège dans ce bar. Il garde la main comme ça en mode, OK, reste ici. Hop, hop. Il se remet le truc. Il revient. Pouf, et il l'éclate et il le soumet. Il y a des petits trucs comme ça, t'as l'impression que c'est un film. Et c'est, je crois au destin. Et je me dis, c'est pas un hasard. Tu vois, des gars comme ça qui font des choses comme ça et qui ont des moments comme ceux-là, c'est pas un hasard. Et donc, tout ça pour dire que, ouais, même.
Après, il a dit qu'il allait retourner en welter. Il veut Donald Cowboy Cerrone. Bon. Après, je veux dire, Donald Cowboy Cerrone, ça reste un nom, membre du top 10.
Ouais, oui, c'est un nom. Mais c'est un nom facile pour lui, entre guillemets, je crois.
Oui, non, complètement.
Stylistiquement, c'est parfait, quoi.
Complètement, c'est ça.
C'est un lutteur. Donc, Chimaev est un lutteur. Il est très agressif et
on
sait
on peut pas directement lui mettre aussi un... Je pense que c'est bien parce que ça permet au public américain direct de le connaître. S'il bat Cerrone, on a beau dire ce qu'on veut. Ça reste quand même
oui,
une
star. Oui, c'est sûr.
Et, comme l'a dit Rust, c'est là le mec qu'on a vu là. Parce qu'on va ensuite vous parler un petit peu de son background, de son histoire. C'est quand même un vrai talent, donc on va pas, je pense que même l'UFC, ils peuvent pas se dire directement on lui met un top 5, alors que clairement de ce qu'on a vu peut lui mettre directement un top 5, c'est pas du tout déconnant.
On a envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais là, c'est vrai que déjà un top 10, ce serait pas mal, parce que là avec une telle performance contre un vétéran, t'as envie de lui mettre l'accélérateur de Mario, enfin vraiment t'as envie de dire, ah oui, il n'y a pas de temps à perdre, et si tu lui mets des mecs entre guillemets normaux et des vétérans, des gatekeepers entre guillemets, ça ne sera plus intéressant parce qu'il va probablement tous les démonter comme il l'a fait là, il y a quelques jours. Donc
après t'as des gars, tu vois, c'est vrai que tu, oui non, en soi t'as raison, il pourrait lui mettre, tu vois, un Nico Price ou même un Vicente Luque, tu vois.
Ouais,
je pense que ça peut être pas mal.
Il est top 10 Luque ou top 5?
Il est top 10.
Luque, ce serait pas mal, hein.
Ouais. Bah non, parce que top 5,
Nico Price, je pense, c'est une meilleure idée à la limite, parce que Luque, il est vraiment dur, mais Nico Price, il est un peu dans top 15, top 10, enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu plus loin. Donc non,
ouais, tout dépend à quel point l'UFC veut aller vite, mais en top 5, c'est donc champion Kamaru Usman, 1 Burns, 2 Colby Covington.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3
Masvidal.
Pas Masvidal qui est redescendu, c'est Léon Edwards. 4 Masvidal et 5 Tyrone Woodley.
D'accord.
Oui. C'est comme ça que ça se passe à l'UFC. Visiblement, des choses se préparent. Enfin.
Ouais.
Mais bref, tout ça pour dire qu'il a vraiment impressionné. Donc,
et tu disais quoi par rapport à son histoire?
Son histoire, son background. Donc donc il est né en Tchétchénie. Maintenant, il représente la Suède. Team All Stars. Il est donc coéquipier, partenaire d'entraînement d'Alexander Gustafsson.
Et quand on est partenaire aussi.
Et quand on est partenaire d'entraînement, c'est qu'il s'entraîne vraiment avec Gustafsson. Il était même présent dans le coin. C'était un des cornermen du dernier combat d'Alexander Gustafsson. Et qu'il a vraiment poussé. Donc, il a l'habitude aussi de manipuler des quand même assez gros gabarits.
Des gros rondins, oui.
Et managé par Ali Abdelaziz. Donc, Dominance MMA. Donc là, clairement aussi, c'est vraiment, quoi qu'on en dise d'Ali Abdelaziz, si vous l'aimez, vous le détestez, peu importe, mais c'est quand même le meilleur manager du game MMA, sinon le plus puissant.
Le plus puissant, c'est sûr.
Et vous pouvez être sûr que si le mec a l'opportunité d'avoir un title shot, il l'aura tout simplement. Puisque en welterweight, on devait quand même avoir un 100% Ali Abdelaziz avec Kamaru Usman contre Gilbert Burns.
Ouais. Ça va finir par poser des problèmes pour aller l'éloigner. Hein. Le fait que... Parce que Ramzat, du coup, il pourra théoriquement pas l'interviewer.
Il y aura Brett Okamoto.
Ouais, il y aura Brett, ouais.
Mais ce qui se passe maintenant d'ailleurs, parce que Kamaru Usman avait été interviewé par Brett Okamoto, Justin Gaethje aussi. Oh là là. Eh oui, mais en tout cas, donc tout ça pour dire que c'est un véritable talent.
Ouais.
Il y a juste enfin, je pense que ça devrait finir par sortir parce qu'en soi là, il y a pas trop d'infos. Peut-être que vous, certains d'entre vous le savent, c'est sa cicatrice qui ajoute aussi un peu à toute
à la mystique.
Exactement. Où là, j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait parce qu'il a aussi une grosse cicatrice au niveau du ventre. Donc,
ça fait vraiment Léonidas.
Exactement. Il y a quelque chose. Donc, j'espère que quand même c'est, enfin, bon.
Ouais, que c'est pas une blessure de guerre, ouais, de vraie guerre.
Exactement. Enfin... Que c'est un truc assez, enfin, un truc qui m'est marrant. Genre, quand vous êtes gamin, vous passez par-dessus un grillage et voilà, vous ouvrez.
Non, mais. C'est marrant, quoi.
Non, mais plutôt quelque chose qui soit vraiment dramatique.
Oui, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai.
Parce que bon, ou comme notre cher Ross, qui lui aussi a plusieurs blessures de guerre.
C'est vrai, mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins stylé. Enfin, disons, ouais, c'est pas, je me suis pas battu à la, j'allais dire à la sarbacane, à la
machette.
Ouais, attends, il y a pas sabre,
glaive.
Sabre. Je pensais à sarbacane, mais ça doit être sabre du coup.
Non, je pense que sarbacane.
Ouais, bah tu peux aussi te battre avec des sarbacanes. Enfin, c'est un gros coup de sarbacane. On s'égare.
Non,
je crois.
Elle c'est pas à la main les sarbacanes.
Mais si.
Ah oui, mais après tu casses pas la gueule du mec avec la sarbacane.
Bah, tu te fais une sarbacane en métal, ça va, tu sais. Tu peux tout faire, c'est comme tournesol ou je sais pas trop quoi, tu sais. Enfin,
le sarbazooka. Bref, n'importe quoi. Tout ça pour dire, ouais. C'était très impressionnant.
Très impressionnant, vraiment. Très impressionnant. Pour moi, c'était la breakout star de ce
événement. Ah, mais complètement. Surtout qu'en plus, il était attendu. Même Dana White l'a félicité.
Ouais.
Donc Dana White qui a, je pense, aussi conscience que tiens, il y a la next gen. Les réseaux sociaux aussi de l'UFC, parce que juste après, il a été très bon aussi. Ça, c'était pas mal. Quand il a eu la post-fight interview. Il a dit justement l'objectif c'était écraser le mec, prendre l'argent, rentrer à la maison. Voilà, il a dit je veux être en welterweight, enfin je peux combattre en middle, mais welterweight c'est la catégorie que je préfère. Je viens pour être champion, je veux donner à Cerrone, ce sera un très bon test pour moi. Maintenant tout le monde sait ce que je viens faire. Et regardez toute ma carrière, j'ai 7 combats, 7 finishes, premier, deuxième round, je les termine tous.
D'accord, donc il est.
Donc le mec était rodé. Non mais oui. Tu sens que le gars est prêt depuis le début pour ça. Et c'est pour ça que vraiment là, pour le coup, l'entourage est parfait. Parce que quand vous regardez, ça fait un moment qu'il côtoie Alexander Gustafsson. Un moment qu'il a vraiment ce niveau sportif qui côtoie vraiment les meilleurs. Et en même temps, en étant dans l'ombre, donc il sait un peu les égards du game à éviter.
C'est parfait. Hein.
Et plus là, maintenant, tu signes avec Ali Abdelaziz et tu fais une sortie comme ça. Bah...
Ah non, là, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un sans faute.
C'est parfait. Et en plus, le mec call out quelqu'un un peu comme un autre combattant. C'est un petit peu le bonus de ce podcast qui a call out Mike Perry, qui est l'autre révélation finalement de cet événement. C'est le premier Tunisien à avoir remporté un combat à l'UFC, mon cher Rust, chez les middleweight face à Abdul
Razak Al Hassan.
Exactement.
C'est Mounir, je crois que c'est Lazez, mais je sais plus si c'est Mazez ou Lazez.
Lazez.
Mounir Lazez. Il a été impressionnant aussi. Alors en fait.
Mais différent, parce que différent, là, clairement, on n'est pas du tout dans, il ne sera pas champion.
Il y a peu de chance. En fait, parce qu'il nous a extrêmement impressionnés. Bon, bah, enfin, du coup, c'est vrai qu'on est biaisé. Enfin, je suis un striker et je viens de la taille. Et pour le coup, alors là, c'était, mais encore une fois, c'était à pleurer. Les genoux de Mounir Lazez, il apporte quelque chose. Il apporte vraiment quelque chose. Ouais. C'était des step-in knees, c'est-à-dire que c'est pas en clinch, c'est vraiment des genoux où il est à distance théoriquement d'anglaise et il va réussir à te timer et à te mettre des genoux soit quand t'avances, soit même comme ça au milieu de la cage. Et le timing de ses genoux et la précision et les coudes aussi, les coudes. Enfin, il était vraiment en mode full Muay Thai et des jolis angles, des beaux déplacements et tout. Debout, honnêtement, il était impressionnant.
Même si défensivement, moi, j'ai trouvé que c'était pas trop ça.
Ouais, il avait des belles esquives de mouvement de buste et tout ça, mais effectivement, il s'en est vraiment pris
c'est
beaucoup.
C'est ça, en fait.
Aussi.
Tu vois qu'il, t'as l'impression en fait que quelqu'un lui avait pas passé le mot que t'as des mitaines, en fait. Par moment, et que mine de rien, Abdul, il cogne quand même sacrément fort.
C'est vrai. Après,
il a gagné le combat, voilà. Mais il y a quelques moments, il a été un petit peu sonné.
Ouais, c'est vrai.
Même s'il n'y a jamais eu d'alerte en
jamais
mode, il
n'y
a pas eu de knockdown et tout. Mais c'est vrai que ce style-là, moi, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Dans le sens où ça fonctionne jusqu'à ce que tu te prennes un KO.
C'est ça le problème.
Parce que, et puis aussi parce que, mine de rien, Abdou, enfin, son corner le disait, c'était quand même criant, il ne visait que la tête, tu vois.
Ouais.
Et c'était toujours des énormes
dommage,
crochets. Enfin,
ouais.
Tu vois, tu t'enchaînes crochets, il plaçait des uppercuts et frappe au corps. Là, je pense que ça aurait été un autre délire aussi.
C'est vrai. Et en fait, il y a aussi un autre truc qui fait que je suis un peu en retrait par rapport à Mounir Lazzez, c'est que il a, en fait, il a voulu, j'ai l'impression, prouver pendant ce combat-là qu'il était un vrai mixed martial artist, c'est-à-dire un mec complet qui sait tout faire. En fait, le problème, c'est que pour moi, ça s'est retourné contre lui parce que il a réussi à mettre Abdulrazak Alassane au sol. Mais de toute façon, Abdulrazak Alassane, c'est ce qu'il veut, c'est rester debout le plus possible. Et en plus, comme il se faisait dominer debout, il était déjà dépassé, donc c'est plus facile de le mettre au sol. Et il a réussi, s'est mis au sol, Mounir Lazzez. Mais en fait, le seul souci pour moi, c'est que une fois au sol, il n'a rien fait. Mais rien du tout, en fait. Même pas de progression réelle, etc. Et donc, en réalité, ce dont j'ai l'impression, c'est que il l'a mis au sol pour montrer, vous voyez, je peux faire de la lutte. Vous voyez, je fais du MMA, tu vois. Mais quand
après aussi, t'avais ce petit bonus de, tu vois, tu valides le takedown.
Oui, tu valides le takedown, mais disons, il a vraiment tellement été inactif et il a tellement rien fait quand il a eu le takedown que perso, ce que ça me dit, enfin, peut-être que je me trompe, c'est, il a pas l'air d'avoir les compétences pour vraiment faire grand chose au sol, en fait. J'ai l'impression. Il a pas l'air de vouloir progresser, il a pas l'air de vouloir tenter quoi que ce soit au sol. Et il a même pas tenté de ground and pound ni rien, en fait. Donc, donc c'est à dire que c'est pas forcément un mec qui a confiance en son ground game, c'est pas forcément un mec qui a confiance en maintenir le mec au sol et suffisamment le gérer et le contrôler pour pouvoir faire du ground and pound ou progresser. Il a vraiment assuré le coup en restant dans la même position tout le temps. Et perso, je trouve que c'est pas très bon signe. Il a voulu montrer qu'il pouvait faire des trucs en MMA, mais le fait qu'il le fasse de cette manière, pour moi, ça a montré l'inverse.
Ouais.
Donc, personnellement, ces limites-là, je pense, malheureusement que...
Oui, non, moi aussi.
C'est possible que quelqu'un, voilà, que quelqu'un, un gros lutteur ou un truc comme ça, qui voit ça, se dise, bon, il y a peut-être moyen, quoi.
Non, c'est clair.
C'est possible.
Non, mais moi, même debout, je suis pas, offensivement, je rejoins Rust, mais c'est vrai que défensivement, je me dis, il peut y avoir des problèmes par rapport à MMA. En tout cas, là, c'était très plaisant. Même un combat contre Mike Perry, tu vois. Je pense pas que ça va être un champion, mais je pense que ça va être un animateur de la catégorie. Un peu comme, par exemple, Vicente Luque, tu vois. C'est un gars, tu sais que quand tu, ou même Nico Price, c'est un mec, vous savez, quand vous allez le voir, vous allez passer un bon moment parce qu'il va se passer des choses pendant le combat. Ou même,
et que c'est beau,
par exemple, qui était sur la carte, Tim Elliott.
Ouais.
Ou en gros, il va pas être champion. Quoique, il a eu des title shots, hein. Mais il sera vraisemblablement jamais champion de la catégorie, mais vous savez qu'avec Tim Elliott, il se passe des choses, il vient, il met la pression, ok, il peut se faire finir, il peut se faire soumettre, mais c'est quelqu'un qui est toujours actif, qui va au contact.
Ouais.
Voilà.
C'est vrai, pour Mounir Lazzez, c'est pareil. Tu sais que tu vas avoir, tu sais que ça va être magnifique debout si ça reste debout.
Ouais.
Tu sais que le mec, en plus, il avait du caractère aussi, hein. Pareil. Mounir Lazzez, il a ce panache, tu vois. Il taunte un peu, il provoque un petit peu, mais c'est gentil, hein.
Non, c'est
pas
ça,
méchant.
Il joue avec l'adversaire.
Il joue, ouais, c'est ça.
C'est il chambre.
Voilà. Il chambre. Parfait.
Voilà.
Et donc,
toute l'histoire est belle. Parce qu'il a été découvert par l'UFC après qu'un de ses potes ait montré un highlight à Dana White.
C'est vrai?
Ouais.
Énorme!
C'est l'histoire.
Ah, c'est marrant,
ouais,
ça.
Ouais, je sais plus exactement où, mais parce qu'en plus, et l'histoire est encore plus belle parce que, et c'est peut-être pour ça, à mon avis, que je pense, il voulait montrer prove a point, comme l'a dit Rust, c'est parce qu'il s'entraîne vraiment tout le temps chez la team Noguera de Dubaï.
D'accord.
Donc, tu vois, t'as un peu ce côté, tu vois, pur produit émirati, donc forcément, fallait montrer aussi au monde que, bon, on a un combattant qui est donc premier combattant tunisien à remporter une victoire à l'UFC, ou peut-être même premier combattant tout court. Ce qui est sûr, c'est que premier Tunisien à remporter une victoire à l'UFC. En plus, il s'entraîne aux Émirats Arabes Unis. Il y a Thaïlande, c'est aux Émirats Arabes Unis. Donc forcément, tu vois,
fallait faire quelque chose. C'est cool, l'histoire est belle. C'est
exactement.
Cool.
Donc bravo. En plus, une victoire contre un mec qui était quand même avant son arrêt pendant 2 ans là sur 3 victoires par KO de suite.
Ouais.
Donc intéressant parce que c'était pas du tout un cadeau.
Non, c'est clair.
Donc vivement la suite pour lui. C'est vrai qu'on soit voir Colap McPerry qui a des petits problèmes en ce moment, mais s'il y avait sans ces problèmes là, moi c'est un combat qui m'intéresse.
Ça aurait été parfait. Mmh. Ouais. Ça aurait été impeccable. Mike Perry, donc il sort d'une victoire.
Ouais.
Mounir Lazzez aussi. Alors bien sûr, Mike Perry est un peu plus haut dans le classement. Il a déjà affronté des pontes, mais stylistiquement c'est intéressant et ça aurait fait de feux d'artifice.
Ouais. Complet.
Complet.
Le game, il est complet, bien. game, il est complet.
Le game, il est complet.
Mon cher Rust, deux informations, moins 45% sur ma Sweet Protein avec le code LASFEUR, puisqu'en ce moment, ce sont les soldes. Et idem, ce sont les soldes aussi chez Venom, partenaire de l'UFC, partenaire de LASFEUR. Le lien est dans la description. Donc, si vous voulez nouveaux équipements, nouveaux t-shirts, que sais-je, la collection Lomachenko, bah, le lien dans la description pour Venom. À la prochaine, mon cher Rust.
À la prochaine, mon cher Guillaume.
Et normalement, on vous sort quelque chose
de rigolo.
De rigolo. De vraiment de rigolo. Ouais,
normalement, vous avez passé un bon moment là.
Exactement. Avec Volcanos de Mer comme vous ne l'avez jamais vu.
Ouais. Volcan et sa team, ça va être doré.
Avec de délicieuses pad thai.
Chicken pad thai.
Vous allez voir.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.